Vous écoutez, on lit pour vous.
La Cour suprême façonne l'histoire. Un publié-reportage paru le 4 novembre 2025 dans Le Franco. Interprété et parfois réinterprété par les juges de la Cour suprême, la Charte influence les politiques publiques du pays, donc les autorités politiques et juridiques. Ce travail accroît considérablement l'intérêt politique et médiatique envers la Cour suprême. Devenu un outil judiciaire puissant, la Charte sera évoquée dans un millier de recours durant les deux premières années de son existence. L'enchâssement de la Charte canadienne des droits et libertés dans la Constitution du Canada en 1982 marque un moment charnière pour la Cour suprême qui doit donner aux principes généraux de ce texte une cohérence structurelle et pratique. Au fil du temps, la Cour suprême du Canada est intervenue dans une série d'enjeux sociaux. Ouverture des magasins le dimanche, décriminalisation de l'avortement, droit des francophones de gérer leurs propres écoles et mariage entre personnes de même sexe. Souvent, la Cour suprême ne s'attardera pas directement aux conclusions d'un procès, mais à un principe qui les sous-tend. Ainsi, la portée des décisions du plus haut tribunal est plus large et fait jurisprudence. Frank Roncarelli avait l'habitude de payer le cautionnement de témoins de Jéhovah arrêtés parce qu'il distribuait une brochure dont le titre était mal vu. En 1946, le premier ministre québécois Maurice Duplessis ordonne qu'on révoque le permis de servir de l'alcool du restaurant de Roncarelli. En 1959, la Cour suprême détermine que Duplessis a abusé de son pouvoir. Celui-ci a toutefois atteint l'objectif de ruiner l'homme d'affaires. Roncarelli contre Duplessis fait jurisprudence quant à la liberté de religion. La Cour suprême détermine que le gouvernement fédéral a l'autorité légale de rapatrier sa constitution sans l'accord des provinces. Cependant, en vertu des conventions constitutionnelles non écrites, elle estime qu'il faut un, citation, « degré appréciable de consentement provincial », fin de citation, pour la modifier, en particulier si les pouvoirs provinciaux sont visés. Après ce renvoi, le fédéral procédera à une ronde de négociation, puis rapatriera la Constitution. Par exemple, la Cour suprême permet l'ouverture des magasins le dimanche. En Alberta, Big M. Brugmart est accusé d'avoir vendu de la marchandise un dimanche, et ce, malgré l'interdiction du Lord's Day Act de l'Alberta, en français la loi sur le dimanche. La Cour suprême établit que cette loi contrevient à la liberté de religion des personnes non chrétiennes et n'est pas cohérente avec le caractère multiculturel du pays promu par la Charte. Le principe de neutralité religieuse de l'État fait surface, oblige le Manitoba à traduire et à réadopter toutes ses lois. La Cour suprême détermine que la province du Manitoba n'a pas respecté la loi sur le Manitoba de 1870 qui exige l'adoption et l'impression des lois en anglais et en français. Elle déclare invalides les lois de la législature du Manitoba qui n'ont pas été publiées en anglais et en français, et exige que la province les traduise et les adopte à nouveau. Quelques années plus tôt, la Cour suprême avait obligé le Manitoba à abolir la loi sur la langue officielle de 1890 dans l'arrêt Forrest. Propose un modèle pour déterminer si la présomption d'innocence a préséance. La loi sur les stupéfiants veut qu'une personne prise avec des stupéfiants soit accusée de possession en but d'en faire le trafic. Cependant, selon la Charte, il doit y avoir présomption d'innocence. David Oakes, étant accusé de transporter des stupéfiants en très petite quantité, la loi justifie-t-elle vraiment d'ignorer sa présomption d'innocence? La Cour suprême crée un modèle d'analyse proportionnelle pour établir au cas par cas laquelle des règles a le plus de poids, le droit criminel ou les droits et libertés de la personne? Décriminalise l'avortement. De 1969 à 1988, l'avortement peut seulement se pratiquer dans un cadre strict, dans un hôpital agréé sur autorisation d'une communauté médicale. Le docteur Henry Morgenthaler avait déjà purgé une peine d'emprisonnement pour avoir pratiqué illégalement un avortement. Après l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, le tribunal détermine que le code criminel contrevient au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la femme. L'avortement est alors décriminalisé. Affirme les droits ancestraux des peuples autochtones. Ron Sparrow est pris à pêcher avec un filet plus long que ce qu'autorise son permis commercial. À titre de membre de la Première Nation Musqueam, il revendique son droit ancestral. La Cour suprême lui donne raison. La Constitution protège les droits autochtones. Il s'agit d'une décision phare en ce qui a trait aux droits ancestraux des peuples autochtones. Avise le fédéral sur le cadre d'une possible sécession du Québec. Le Québec a-t-il le droit de faire sécession unilatéralement? Non, indique la Cour suprême. Toutefois, en vertu des principes constitutionnels, si le peuple québécois s'exprimait démocratiquement et clairement en faveur d'une sécession, le gouvernement fédéral aurait le devoir de négocier ses conditions de bonne foi. Les négociations devraient tenir compte des intérêts des provinces, de la population canadienne, au Québec et hors Québec, et des droits des minorités. Assure le droit à l'équité de tous les groupes, personnes homosexuelles incluses. Après avoir dû déclarer son homosexualité à son employeur, Dalwyn Vrian est congédié, mais il ne peut contester cette décision devant la Commission des droits de la personne de l'Alberta parce que celle-ci a déterminé que l'orientation sexuelle n'était pas un objet de discrimination, contrairement à la race, la religion, le genre et l'âge. La Cour suprême déclare qu'une omission législative ne permet pas d'ignorer la Charte. La Commission des droits de la personne de l'Alberta est alors tenue de modifier la liste des groupes protégés. Incite à tenir compte des circonstances systémiques pour établir une peine. Alors que les Autochtones représentent 3 % de la population canadienne, ils constituent 12 % de la population carcérale. La Cour suprême suggère que la peine peut tenir compte des circonstances historiques, systémiques et personnelles dans lesquelles évolue une personne accusée autochtone. Cette décision a un caractère réparateur, l'objectif étant d'éviter que la discrimination ou des injustices se perpétuent dans le système de justice. Affirme le droit d'une personne accusée d'être jugée dans la langue de son choix. R contre Beaulac, 1999, concernant le droit criminel. Accusé de meurtre, Jean-Victor Beaulac demande à être entendu par un juge et un jury qui parlent français et anglais, mais la Cour provinciale rejette sa demande. La Cour suprême rappelle cependant que les droits linguistiques doivent être appliqués de façon systémique, citation, « les inconvénients administratifs ne sont pas un facteur pertinent, pas plus que ne le sont les aptitudes linguistiques de l'accusé dans la langue officielle » qu'il n'a pas choisi. » Fin de citation, explique-t-elle. Accorde aux conjoints de même sexe le droit de se marier. En 1999, la Cour suprême avait élargi la définition de « conjoint de fait » à « l'union de deux personnes » plutôt qu'à « l'union d'un homme et d'une femme ». Quelques années plus tard, dans la même optique, le fédéral demande à la Cour suprême d'analyser une définition inclusive du mariage. La Cour suprême déclare que les conjoints de même sexe peuvent se marier. Elle précise que si cette décision va à l'encontre des valeurs de certaines autorités religieuses, celles-ci ne sont pas tenues de célébrer ces unions. Ordonne au fédéral de créer un régime d'aide médicale à mourir. Dès le début des années 1990, les tribunaux déboutent quelques causes entourant le recours à l'aide d'un médecin pour se soustraire à une condition médicale grave, irrémédiable et qui occasionne des souffrances persistantes. Cependant, le débat se poursuit. Dans un jugement unanime, la Cour suprême finit par déterminer qu'interdire l'aide médicale à mourir entrave le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. Elle donne 12 mois au gouvernement fédéral pour créer un régime d'aide médicale à mourir. Fixe des délais raisonnables pour la tenue d'un procès. Selon la Charte, toute personne accusée a droit d'être jugée dans un délai raisonnable. Cependant, une culture des délais s'est installée dans le système de justice. Par exemple, il aura fallu 49 mois pour que la cause Jordan soit conclue. Pour remédier aux excès désormais tolérés, la Cour suprême établit des limites. Un procès doit être conclu en 18 mois en Cour provinciale, sauf s'il y a enquête préliminaire, et en 30 mois en Cour supérieure. C'était « La Cour suprême façonne l'histoire », un publi-reportage paru le 4 novembre 2025 dans Le Franco.
Mieux détecter les incendies de forêt grâce aux nouvelles technologies. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 12 octobre 2025 dans la presse. Un lecteur, Georges Bougie, demande « Quelles sont les avancées pour améliorer la lutte contre les incendies de forêt ?» Des drones sont maintenant utilisés pour détecter les incendies de forêt et pour larguer des retardateurs de flammes, ce qui permet de protéger les pompiers. De plus, l'intelligence artificielle permet de mieux quantifier le risque d'incendie lié au temps sec. Les drones de l'IA ouvrent de nombreuses possibilités, explique la professeure Susan Pritchard de l'Université de Washington à Seattle, spécialisée dans l'écologie des incendies de forêt. On a vu par exemple, en Colombie-Britannique, des algorithmes d'IA détectés à partir des images de caméras montées sur des tours de retransmission de signaux cellulaires, les conditions propices à l'apparition et à la propagation des incendies, quand il y a beaucoup de combustible, branches cassées et arbustes très secs. Les drones peuvent aussi aider à détecter les incendies naissants et protéger les pompiers menacés en épandant de petites quantités de retardateurs de flammes. Les retardateurs de flammes sont des liquides anti-incendie plus efficaces que l'eau. Un ingénieur montréalais a testé pendant 2 ans, en 2023 et 2024, de petits drones pour détecter les foyers d'incendie. L'objectif est de détecter les petites traces de fumée pour pouvoir attaquer les feux naissants avec des retardateurs de flammes, explique Yumen Zhang, un ingénieur aérospatial professeur à l'Université Concordia. Il poursuit. On veut aussi se servir des images satellites et de l'IA pour mieux prévoir les trajectoires de surveillance des drones. On pourrait surveiller les forêts 24 heures par jour en utilisant par exemple des capteurs thermiques la nuit pour détecter la chaleur des feux naissants. M. Zhang cherche maintenant du financement pour tester des drones hélicoptères plus grands qui pourraient avoir plus de capteurs et transporter une plus grande quantité de liquide ainsi que des drones à ailes fixes qui volent plus vite et pourraient surveiller de plus grandes superficies. Avec le temps, la lutte aux incendies de forêt se fera à l'aide de ces 3 catégories de drones, petits et grands hélicoptères et à ailes fixes selon lui. J'avais recruté un étudiant pour tester un modèle d'avion-taxi à ailes fixes chinois destiné à la surveillance des incendies de forêt, relate M. Zhang. Ça aurait permis de profiter de leur logiciel de pilotage automatique. Malheureusement, il n'a pas eu son visa d'études pour venir au Canada. L'ingénieur montréalais travaille sur ce type de drone depuis 2019 et estime qu'il pourrait aussi être utilisé en ville au sommet des gratte-ciel. Brûlis. Il existe aussi d'autres innovations pour combattre les incendies, mais qui n'utilisent pas les technologies de pointe, par exemple le retour des incendies préventifs et contrôlés. Les feux préventifs permettent de créer des zones tampons près des lieux habités et les feux contrôlés servent à éliminer le bois mort, combustible, dans les zones éloignées des lieux habités. Ces stratégies étaient déjà utilisées par les autochtones, puis ont été reprises par les colons européens par la suite. Mais à partir des années 1980, il y a eu des pressions pour combattre tous les incendies de forêt et pour interdire des incendies préventifs, notamment avec le développement de la villégiature en régions éloignées, relate Madame Pritchard. Avec les changements climatiques, on se rend compte que ce n'est plus viable d'abandonner ces tactiques. Autour de Banff, c'est très fréquent, et aussi dans le nord des prairies. Un débat fait rage à propos de ces techniques délaissées dans les années 1980 et 1990. Mike Flanagan, spécialiste des incendies de forêt à l'université Thompson Rivers en Colombie-Britannique, estime que les feux préventifs causent plus de dommages qu'ils n'apportent de bienfaits. On sait maintenant que la fumée des incendies de forêt entraîne beaucoup de problèmes de santé, explique M. Flanagan. Alors, on épargnerait peut-être des biens immobiliers avec un nombre moindre d'incendies de forêt, mais au détriment de la santé de la population. Les incendies préventifs permettraient peut-être de réduire la quantité totale de fumée des incendies de forêt, mais peut-être pas à toutes les saisons, fait valoir M. Flanagan. Des gens seraient incommodés par la fumée des feux préventifs certaines années où, finalement, le temps pluvieux réduirait le nombre d'incendies. Pour eux, le dommage est bien réel, dit-il. Le météorologue et biologiste de Colombie-Britannique préfère une autre innovation non technologique, l'interdiction de fréquentation des parcs nationaux, comme l'a fait le Nouveau-Brunswick l'été dernier, durant les périodes à risque élevé. Interdire complètement l'accès est plus efficace pour éviter des incendies causés par l'humain que la simple prohibition des feux de camp, souligne-t-il. En savoir plus, 70 000, c'est le nombre de décès en partie attribuable à la fumée des incendies de forêt canadiens de 2023 aux États-Unis et en Europe. C'était « Mieux détecter les incendies de forêt grâce aux nouvelles technologies », un texte de Mathieu Perrault paru le 12 octobre 2025 dans la presse.
Social. Un texte de Gérard Bouchard, paru le 15 novembre 2025 dans Le Devoir. Selon l'Observatoire québécois des inégalités, Le Devoir, 28 octobre, celles-ci ont augmenté sensiblement depuis la pandémie, créant d'importantes plages de pauvreté. Parallèlement, le problème du logement a pris les dimensions d'une crise. Le nombre de demandes alimentaires s'est envolé. L'itinérance s'étend aux petites villes régionales. Les immigrants souffrent. Tout cela est honteux pour une société comme la nôtre, une société prospère, prétendument égalitaire. On connaît aussi l'engorgement des garderies, l'enfance et la jeunesse en difficulté, les familles sans médecins, la discrimination. Ces réalités auraient dû être traitées en priorité par l'État. On rêve à ce qui aurait pu être fait si ce gouvernement de comptables n'avait pas autant gaspillé, mais il avait d'autres priorités. Voici un bref survol de ce qu'il en a fait. La laïcité. Le dossier de la laïcité était apparemment le plus urgent. Le premier ministre a donc orchestré une vigoureuse opération pour réprimer les graves assauts qui la menaçaient. De quoi s'agissait-il? De quelques cas de prière dans les rues, de gardiennes de la petite enfance portant des signes religieux? Combien? Et, surtout, de cette redoutable insurrection à l'école Bedford, où des enseignants musulmans régnaient en maître. Que s'est-il passé? Lorsque le gouvernement est entré en guerre, l'affaire était connue depuis 7 ou 8 ans de l'autorité scolaire, qui avait choisi de l'ignorer. Apparemment, le ministère responsable savait lui aussi depuis quelque temps. Les journaux ont dévoilé l'affaire. M. Legault a alors réagi avec une énergie qui faisait croire à une contamination générale du système scolaire. L'opération a conduit à l'adoption du projet de loi 94 qui renforce la laïcité, ajoutant un tour de vis à la restriction des droits. Il aurait suffi de quelques mesures ad hoc, sévères au besoin, pour corriger la situation. À propos de cette loi, je pense à l'interdiction qui frappe le personnel de la petite enfance, une disposition qui tient de l'acharnement. Je pense à l'affaire de l'école Bedford, qui aurait pu être facilement étouffée dans l'œuf. Mais l'occasion était trop belle pour un chef en déficit de popularité. Il avait besoin d'une grande victoire. Quand comprendra-t-on que le Québec a remporté le combat de la laïcité? Assurément, la vigilance s'impose, mais il reste que A. Les pouvoirs sont clairement séparés entre l'État et les Églises. B. L'État est neutre en matière de religion. C. Celles-ci ont toutes les mêmes droits. D. Les citoyens sont libres d'adhérer à leur religion de leur choix. E. Ils sont libres aussi de n'adhérer à aucune. Et F. Pour autant qu'on sache, la situation générale est plutôt calme. Souffre-t-on d'intimidation, de violence de la part de groupes religieux? À 5% de la population, les musulmans menacent-ils de nous remplacer? Ce qui heurte, c'est la visibilité du religieux, un droit pourtant très largement reconnu. Il est permis de le restreindre, mais pour des motifs légitimes. Un exemple bien connu, son interdiction aux agents de l'État autorisés à user de violence contre des citoyens. En passant, pour justifier la répression dans les écoles, les laïcistes se réfèrent malicieusement aux « personnes en autorité ». Mais a-t-on démontré que ce statut en faisait des citoyens dangereux? L'identité. Voilà un autre flambeau que M. Legault brandit au nom de « nos valeurs ». Nous sommes tous d'accord. L'État doit protéger notre langue. Il lui faut aussi défendre vigoureusement les valeurs, les idéaux qui nous guident. Mais il est gênant d'en faire des outils électoraux sans se fatiguer beaucoup pour leur donner vie concrètement. C'est ce que notre gouvernement a fait. L'égalité, la solidarité, la compassion sont des champs restés peu cultivés sous M. Legault, qui ne semble guère s'émouvoir de la misère croissante, de la condition des immigrants et de l'école à trois vitesses, cette machine à fabriquer des inégalités. Le pluralisme est carrément resté en friche, c'est la phobie de l'immigrant qui l'a remplacé. De nombreux organismes œuvrant dans la sphère de la culture, cette véritable pierre d'assise de l'identité, crie famine, etc. La démocratie. Quelle attention le Premier ministre a-t-il accordé à cette autre valeur fondamentale? Avant son élection, il voyait un très grave défaut dans le scrutin majoritaire qu'il promettait de remplacer par le scrutin proportionnel. Le Parti québécois et le Parti libéral l'avaient déjà proposé. Québec solidaire l'appuyait. Une fois élu, le chef a honteusement renié son engagement. Le vice persiste donc. Un gouvernement qui est loin d'avoir obtenu la majorité des votes peut légiférer en toute impunité. Voir sur ce sujet l'excellent texte de Jean-Pierre Charbonneau dans Le Devoir du 3 novembre. La démocratie souffre également quand une initiative comme le projet de loi 3 restreint la capacité des organismes syndicaux à intervenir dans les débats publics. C'est oublier le rôle essentiel que ces acteurs collectifs ont joué dans notre histoire en matière d'égalité, d'équité et de progrès social en général. Comment qualifie-t-on un gouvernement qui veut limiter la liberté de parole d'un important acteur collectif? Le social. Revenons au social. Un parti misant sur ce thème plutôt que de s'enfoncer dans le bourbier identitaire serait-il handicapé au Québec? Ce serait méconnaître notre mémoire de porteur d'eau, de pauvre et d'humilié. Miron, notre sueur à gage, notre chair à pavé. C'est une fibre qui résonne toujours fortement chez une très grande partie de la population. Le passé du Parti québécois en témoigne. Il se trouverait alors en terrain ferme, sans ambiguïté, sûr de faire œuvre utile et de rassembler au lieu de diviser. Pourquoi le parti ne renouerait-il pas avec cette voie qui est celle de sa tradition? Une politique sociale bien pensée jointe à une politique nationale ferme le ramènerait à ses racines, à ses priorités, à ses valeurs. L'attachement et l'identification au Québec s'accroîtraient, les Québécois retrouveraient confiance, le parti s'en porterait mieux. Et qui se sentirait menacé par le port du voile chez quelques employés des CPE? Nous aurions autre chose à faire. Bâtir un pays. C'était « Et le social ». Un texte de Gérard Bouchard, paru le 15 novembre 2025 dans Le Devoir.
Quels sont les signes de déshydratation? Un texte de Marie-Josée Roy, paru à l'été 2023 dans le magazine Bel Âge. Comment savoir si on boit suffisamment? Et quels sont les signes de déshydratation? Marie-Louise Trépanier, Cap-Rouge. La réponse de la docteure Claudelle Pétrin-Desrosiers, médecin de famille et membre de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement. Il est important de bien s'hydrater tout au long de l'année, mais c'est particulièrement vrai pendant la période estivale. Quand il fait plus chaud, on a tendance à perdre davantage d'eau, notamment par la sueur. Bref, pendant l'été, nos besoins en eau augmentent. Il faut alors s'assurer de prévenir la déshydratation dont les conséquences ne sont pas banales pour le corps. On peut être victime de ce qu'on appelle des désordres électrolytiques, c'est-à-dire des déséquilibres au niveau du taux de sodium dans le sang. Le fonctionnement des reins risque aussi d'être affecté par un manque d'eau. Des symptômes évidents. La sensation de soif est l'un des premiers signes indiquant une déshydratation. Quand notre bouche, nos lèvres et notre langue nous semblent plus sèches qu'à l'habitude, c'est que nous manquons déjà d'eau. Il faudrait toujours boire suffisamment pour ne pas sentir la soif. Une déshydratation légère à modérée se manifeste aussi à travers des urines peu fréquentes ou dont la couleur est plus foncée. On peut également se sentir affaibli, peu actif ou somnolent. En cas de déshydratation sévère, l'esprit risque notamment de montrer des signes de confusion ou d'irritabilité. Avoir des vertiges fait aussi partie des signes courants. Si l'on présente un ou plusieurs de ces symptômes, mieux vaut se réhydrater rapidement en faisant le plein d'eau grâce aux sels minéraux qu'elle contient. Les boissons contenant des électrolytes et les solutions de réhydratation vendues en pharmacie sont également des options gagnantes. Attention à ce qu'on boit. Tous les liquides n'ont pas les mêmes propriétés désaltérantes. Les boissons alcoolisées, le thé, le café et les boissons énergisantes ont plutôt l'effet contraire sur le corps. Ils nous font uriner davantage. Pour maintenir une bonne hydratation, on gagne donc à miser sur l'eau, les fruits et les légumes. On trouve que ce liquide manque de goût. On l'aromatise avec des agrumes, du concombre, des baies ou des herbes aromatiques. Il existe aussi des concentrés de saveur à base de sucre naturel. Mais c'est sûr que l'eau demeure la façon la plus saine de se réhydrater. C'était « Quels sont les signes de déshydratation? » un texte de Marie-Josée Roy, paru à l'été 2023 dans le magazine Bel Âge.